Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, le peuple a-t-il besoin de la gauche ? Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, le Labour version Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, François au Vatican. Non seulement la gauche ne serait pas morte en Europe, mais au contraire en pleine régénérescence, si ce n'est sur le plan des idées, du moins sur la capacité des uns et des autres à dialoguer avec le peuple. Exit la troisième voie, cette parenthèse incarnée par Tony Blair et Gerhard Schröder. Cela dit, un territoire semble résister à ce mouvement, dont on verra bien s'il avait vocation à devenir durable. Ce territoire, c'est la France. Ici, la gauche est en piteux état. Les élections régionales promettent une nouvelle déconvenue après celle des municipales. Or certes, le Parti Socialiste est au pouvoir depuis 2012, mais sa façon de plus en plus décomplexée d'assumer une orientation sociale libérale aurait achevé de le couper du peuple, ce dernier ayant trouvé refuge à droite. Que ce soit sur les questions économiques, les choix de société, les mots pour en parler, c'est bien à droite que se décident aujourd'hui les termes du débat politique, d'où ses succès. La gauche aurait donc intérêt à reprendre l'initiative. Oui, mais le peuple a-t-il besoin de la gauche ? C'est notre sujet du jour. Et deux invités pour en discuter ce soir. Gaël Broustier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez demain, à demain, Gramsci, aux éditions du Cerf dans la collection, Le Point sur la table. Pour discuter avec vous, Éric Fassin, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur à l'Université Paris 8. Votre dernière publication est un petit peu plus ancienne, mais pas beaucoup plus. Gauche, l'avenir d'une désillusion. C'était chez Textuel l'an dernier. Alors, avant peut-être que de discuter des solutions ou des stratégies qui s'offrent à la gauche pour essayer de reconquérir le peuple, je voudrais quand même qu'on passe par une petite phase de diagnostic. Votre livre, Gaël Broustier, s'ouvre sur le constat qui était celui de la motion qui est devenue majoritaire au dernier congrès du Parti Socialiste, celle menée par Jean-Christophe Cambadélis, disant ceci, la gauche n'est plus en situation d'hégémonie culturelle. C'est un constat que vous partagez. Est-ce que vous y voyez une forme d'hyperlucidité de la part du numéro 1 du PS ?
Oui, j'allais dire enfin un diagnostic à peu près lucide. Après, c'est tout ce qu'il y a derrière qu'il faut le discuter. Le constat est d'ailleurs partagé par la motion de ceux qui se disent frondeurs, qui a fait 30% d'ailleurs, je crois, du Parti Socialiste. Mais la question de le peuple a-t-il besoin de la gauche ? C'est la question fondamentale, c'est comment bâtir une volonté politique pour sortir de ce qu'on peut appeler l'hégémonie néolibérale ? Et est-ce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, l'action gouvernementale, permet de sortir de cette hégémonie ? Quelles sont les contradictions internes à l'action gouvernementale, les sources d'espoir et les sources de désespoir qui peut nous inspirer ? Toutes ces questions-là, en fait, en utilisant les outils qui avaient été forgés par Antonio Gramsci et qui ont été ensuite développés par un certain nombre de ses successeurs, que ce soit Stuart Hall, Nikos Poulantzas, Ernesto Laclau, permettent, à mon sens, d'y répondre.
Mais avant de passer aux outils, donc, sur le diagnostic...
Oui, le diagnostic est évident. Je dirais qu'elle a perdu plusieurs fois la bataille culturelle. Elle l'a perdu face au néolibéralisme. Mais après 2008, quand la crise a pris une nouvelle tournure, la gauche, la social-démocratie européenne, a laissé, on va dire, les institutions européennes accentuer la coercition sur les peuples et ne s'est absolument pas inscrit en opposition face à cette évolution-là. Donc elle a perdu une deuxième fois et elle a laissé, pire, son effacement a laissé, dans un certain nombre de pays, les droites nationales populistes incarner une forme de contestation. Et là, il y a une part de responsabilité historique écrasante de la social-démocratie européenne.
Éric Fassin, la gauche n'est plus en situation d'hégémonie culturelle. Est-ce que c'est une façon de formuler le constat qui vous convient ?
On pourrait dire à l'inverse que la droite est en position d'hégémonie culturelle. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, plus personne n'imagine une hégémonie culturelle de la gauche. La question est de savoir si la gauche existe encore idéologiquement. Et en tout cas, ce qui paraît clair, c'est que il est difficile de croire que aujourd'hui en France, ce soit la gauche qui gouverne. Donc, je pense que beaucoup de gens, entendant parler de la gauche ce soir, ne penseront pas au Parti Socialiste, ne penseront pas au gouvernement de Manuel Valls, ne penseront pas à la présidence de François Hollande. Donc, ça, c'est un changement très important. C'est pas simplement, est-ce qu'il y a une hégémonie d'un côté ou de l'autre, mais c'est aussi est-ce qu'il y a une gauche dans les partis qui, aujourd'hui, sont susceptibles de se faire entendre et d'exercer le pouvoir. Ce qu'on appelait avant gauche gouvernementale est toujours gouvernementale, mais n'est plus nécessairement à gauche.
S'il y a hégémonie de la droite, est-ce que c'est pour vous, Éric Fassin, parce que les idées de gauche n'existent plus ou parce que ce sont des idées qu'on n'entend plus, mais qui existent, mais qui n'apparaissent plus dans le débat politique ?
Il y a d'une part une crise idéologique, mais il y a aussi, d'autre part, quelque chose qui tient à la constitution de l'espace public. L'espace public, aujourd'hui, donne une prime aux idées de droite et, si possible, aux idées qui sont peut-être les plus radicales ou les plus scandaleuses ou les plus controversées, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de se faire entendre et de faire parler de soi si, comme Éric Zemmour ou comme Nadine Morano ou comme Michel Onfray, on va transgresser le sens commun, nous dit-on, alors qu'en réalité, on est en train de dire tout haut ce que tout le monde, en ce moment, dit déjà tout haut.
Gaël Brossier.
Oui, la question de... Il y a deux phrases dernièrement qui sont assez symptomatiques de ce qui se passe en Europe et en France. Je voyais l'autre jour Geoffroy Lejeune, qui est un des membres de Valeurs Actuelles, et qui disait, par exemple, il y a des gens qui souffrent dans un certain nombre de zones en France. Alors forcément, ils sont de droite. Et autrefois, il y avait une évidence qui était de gauche, forcément de gauche. Je crois que c'est Lucchini qui dit ça. Bon, il n'y a pas d'évidence aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intérêt, on va dire, du peuple, bon, en gros, que nous, on définira comme les dominés, ceux qui subissent le plus la crise économique, ceux qui subissent les politiques d'austérité en Europe, cet intérêt-là, il n'est pas donné. Il ne tombe pas, ce n'est pas la météo. C'est-à-dire qu'il se construit. Et il faut qu'il y ait des forces politiques, il faut qu'il y ait des forces sociales qui le construisent à la fois intellectuellement, idéologiquement, culturellement, qui l'ancre dans la société, etc. Ces forces-là font, grosso modo, défaut aujourd'hui en France. Elles font défaut en France, elles font défaut dans beaucoup d'endroits en Europe, mais, comme le disait, et c'est l'autre aspect qui donne beaucoup plus d'espoir, l'autre jour, Pablo Iglesias, qui est donc le leader de Podemos, qui est l'un de ceux qui pensent la construction d'une volonté politique pour sortir des politiques d'austérité, disait « Moi, je me satisfais de la victoire de Jérémy Corbyn, non pas parce que Jérémy Corbyn est, entre guillemets, de gauche, mais parce qu'il défend l'intérêt et il défend les gens qui subissent l'austérité en Europe, il défend l'intérêt des dominés. » Bon, voilà, on a une autre approche qui est en train de voir le jour, qui rejoint notre sujet, parce que le peuple a-t-il besoin de la gauche ? La question, c'est d'abord comment on construit le peuple. Et c'est vrai que toutes les thématiques, le renouvellement d'un certain nombre de thématiques, le renouvellement stratégique qui vient d'Espagne, qui vient de la part de gens comme Herreron, Monedero ou Iglesias, et qui est inspiré par Ernesto Laclau, qui est un... Lui-même disait que si Gramsci vivait, il serait totalement d'accord avec lui, ce qui était peut-être présomptueux, mais ce qu'il écrivait, et c'est ce que Chantal Mouffe écrit dans un récent livre. Cette question de la constitution d'une volonté collective, d'une volonté politique contre l'hégémonie néolibérale, elle ne trouve pas de réponse aujourd'hui en France. Ça, c'est une réalité.
Vous parlez de construction du peuple, alors c'est quelque chose qui est assez présent dans votre ouvrage, Éric Fassin, enfin, en tout cas sur l'idée de à la fois changer le peuple et changer de peuple. Ça veut dire que l'idée pour la gauche, ça n'est pas d'essayer de capter ce que sont les attentes du peuple, mais plutôt de créer un peuple à l'image qui correspondrait aux idées de la gauche.
Pour ma part, je crois, pour répondre à votre question, que le peuple a besoin d'une gauche. Ça n'est pas celle qui, aujourd'hui, le plus souvent arbore ce titre, mais il y a besoin d'une gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin qu'il y ait, en démocratie, une alternative. À quoi ça sert qu'il y ait une alternative ? Eh bien, non pas simplement à refléter le fait qu'il y a déjà des gens qui seraient de droite et de l'autre côté des gens qui seraient de gauche, mais ça sert à proposer des représentations de la société, à proposer des projets politiques qui vont pouvoir s'affronter et qui vont pouvoir rallier des gens qui n'étaient pas toujours déjà de gauche ou toujours déjà de droite. C'est bien pour ça qu'il y a une bataille politique.
Mais cette alternative, elle existe. Si on prend le Front de Gauche, par exemple, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qui est proposée que ce que dit le Parti Socialiste ou que ce que disent les Républicains ou le Front National.
Effectivement, c'est la question la plus délicate. C'est-à-dire, comment on explique que ceux qui disent nous allons essayer de maintenir une alternative, n'arrive pas davantage à séduire le peuple. Eh bien, c'est là, je crois, qu'on peut au moins en partie expliquer par le fait que, eh bien, il y a un obstacle qui est le Parti socialiste, qui donne l'impression à tout le monde que, quand même, à la fin, si on veut être plus à gauche que la droite, il faudra bien voter pour le Parti socialiste. De ce point de vue-là, on a une comparaison intéressante, me semble-t-il, avec la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce ? On nous disait, il y a encore un an, que Syriza ne pourrait pas parvenir au pouvoir. Or, Syriza a été élu en janvier, et pourquoi ? Eh bien parce que le Parti socialiste en Grèce avait fini par disparaître, en quelque sorte, de la carte. Autrement dit, il n'y avait plus un parti dominant qui était censé être de gauche et qui ne l'était plus, il n'était plus dominant. Donc, il y a en ce moment en France une très grande difficulté pour essayer de faire émerger autre chose. Et de ce point de vue-là, la France fait relativement exception. Ce qui s'est passé en Angleterre, on ne le voit pas en France. Ce qui s'est passé en Grèce non plus, et pas davantage en Espagne.
Il y a quelques mois, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, posait un diagnostic justement sur cette défaite idéologique de la gauche en disant ben voilà, on s'est laissé imposer les mots de la droite, ça a été une faute. Est-ce que vous diriez que cette victoire idéologique de la droite aujourd'hui, puisque c'est comme ça qu'elle est assez largement diagnostiquée, la gauche et le Parti Socialiste en est victime, ou bien est-ce qu'il a aussi été un acteur de cette victoire, Gaël Brustier?
C'est pas seulement les mots, c'est pas seulement une bataille de mots, c'est une bataille aussi de représentation beaucoup plus large, c'est une bataille d'image, c'est une bataille c'est la capacité d'un certain nombre des droites à s'adapter, c'est la capacité des droites nationales populistes notamment à récupérer aussi un certain nombre d'images d'un univers symbolique par exemple de la gauche, à le réutiliser aux fins de son propre programme. J'étais il y a quelques jours à Vienne en Autriche, le travail que fait l'extrême droite locale par exemple est tout à fait symptomatique. Dans les années 1970, le Parti socialiste autrichien faisait plus de 50% des voix. Il était majoritaire de manière absolue dans le pays. Il était en situation d'hégémonie. Dans un pays catholique et comme l'Autriche, il avait réussi à faire toutes les réformes sociétales absolument inimaginables, qui étaient le divorce, etc., pendant 13 années. Aujourd'hui, vous avez une extrême droite qui frôle les 35% en Autriche et qui utilise les grandes figures socialistes autrichiennes à son profit, qui utilise le terme de révolution d'octobre pour sa campagne municipale de Vienne et qui a complètement dépouillé un parti social-démocrate qui est complètement asséché, incapable d'incarner un certain nombre de demandes sociales, de représentation sociale et incapable d'incarner une quelconque volonté politique alternative ou un quelconque espoir politique en Autriche.
Donc, on a une leçon de choses. Voilà, ça c'est quand la gauche se fait dépouiller de ses idées, mais dans votre livre, Gaël Brustier, s'agissant du Parti Socialiste, il me semble que vous allez encore plus loin, parce que vous écrivez notamment ceci. Les élites socialistes furent les intellectuels organiques du néolibéralisme et entraînèrent leur électorat à devenir, malgré lui, un groupe auxiliaire du groupe dirigeant lié à l'économie financière.
Si on fait une bonne analyse de ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'établissement du néolibéralisme, avec les gens qui ont codifié le néolibéralisme, ce sont des hauts fonctionnaires internationaux proches ou issus du Parti Socialiste et qui ont contribué à codifier la mondialisation. C'est le consensus de Paris, etc. Ça a déjà été dit écrit. Et c'est vrai que le grand paradoxe, c'est que alors qu'ils arrivaient pour faire la transition au socialisme, ils ont été les intellectuels, ce qu'on appelle les intellectuels organiques de la transition au néolibéralisme. Ça, c'est un fait. Et d'autre part, ils ont adhéré, ils ont promu une idée qui était l'idée d'une Europe sociale, d'une Europe démocratique, en adhérant à la réalité de l'Europe qui était l'Europe de l'acte unique et qui a été un système qui, lui, a été dépourvu de prise, on va dire, qui n'a pas associé la grande majorité des citoyens européens à son développement, qui a concentré un grand nombre de pouvoirs. Aujourd'hui, le pouvoir politique est dépouillé de la politique monétaire, de la politique budgétaire, du droit de la concurrence et de la politique commerciale, qui sont quand même un peu essentiels à mener une action politique. La prétention à aller vers l'Europe sociale, vers une Europe démocratique, s'est trouvée confrontée à une réalité qui était que ce système ne suscitant pas le consentement des peuples européens, a développé depuis 2008 ou 2009, depuis qu'il y a la crise, des formes de coercition toujours plus importantes dont on a vu les effets en Grèce. Et aujourd'hui, on est dans une bataille, la bataille qui se livre entre Berlin, Athènes et Bruxelles en est le symbole. On est dans une bataille très très lente et très qui consiste à essayer de desserrer, de trouver une issue positive à cette construction européenne, un projet alternatif, parce que pour l'instant cette Europe est adémocratique. et elle est essentiellement coercitive. Et c'est vrai que le Parti Socialiste en a été l'artisan suite des années 80 n'a jamais réalisé sa promesse d'Europe sociale, parce qu'il ne le pouvait pas.
Finalement, Éric Fassin, quand Emmanuel Macron par exemple dit que le libéralisme c'est une valeur de gauche, peut-être que c'est quelque chose qui est effectivement réalisé aujourd'hui.
On pourrait dire que le Parti Socialiste est devenu libéral, ou plus exactement néolibéral, ce qui n'est pas la même chose. Il inverse en quelque sorte la logique de ce qui s'est passé. Je crois qu'on pourrait prendre un mot qui sert de point de repère dans cette transformation, dans cette mutation depuis les années 80, c'est celui de réalisme. Le réalisme, il est invoqué comme un principe pour s'adapter à l'économie, pour donc dire qu'il faut savoir résister à la démagogie, c'est-à-dire il ne faudrait pas écouter le peuple, et il faudrait écouter la logique même de l'économie, qui serait la logique de la réalité. Autrement dit, la réalité serait de droite, et être réaliste, ce serait se rallier à la logique de la droite. Le problème, c'est que c'est le point de départ, il faut être réaliste, quitte à déplaire au peuple, mais le point d'arrivée, c'est comment reconnaît-on le réalisme au fait qu'il va déplaire au peuple. Autrement dit, déplaire au peuple est devenu un signe de réalisme. Je crois que ça, c'est un basculement depuis les années 80, et j'irai plus loin parce que je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'économie. En fait, le terme de réalisme, ou la logique du réalisme, elle est invoquée dans tous les domaines. Par exemple, en matière d'immigration. Qu'est-ce qu'on nous explique depuis une génération? C'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce réalisme supposé ne repose pas sur la réalité, puisque, premièrement, la misère du monde ne vient pas chez nous, puisque, deuxièmement, on s'aperçoit aujourd'hui que ceux qui viennent, c'est pas la misère. C'est-à-dire que ce soit les migrants économiques ou a fortiori les réfugiés qui arrivent en ce moment en Europe, eh bien, ce ne sont pas les plus pauvres. Et enfin, ce qu'on finit par comprendre en France, c'est que toute la misère du monde ne veut pas venir chez nous, ils préfèrent aller ailleurs.
Sauf que ce discours-là, enfin ce constat que vous faites-là, il n'est pas censé plaire au peuple. Ce que est censé dire le peuple, si on se réfère par exemple au sondage d'opinion, c'est bien que, effectivement, toute la misère du monde ne peut pas venir chez nous. On n'est pas en mesure d'accueillir tous les réfugiés qui arrivent aux portes de l'Europe. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On déplaît au peuple ou on lui plaît?
Mais c'est parce que la question que vous posiez au départ est la bonne, c'est celle de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous aujourd'hui convaincus que le peuple est forcément xénophobe? Eh bien, parce que c'est une représentation partagée et entretenue par des discours, mais aussi entretenue par des pratiques, c'est-à-dire que on va donner l'impression à tout le monde que c'est soit les uns, soit les autres. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour des étrangers, on ne le fera pas pour des Français. Au lieu de renverser la question et de se dire, mais si, par exemple, on peut traiter aussi mal les Roms aujourd'hui comme on le fait en France, y compris sous un gouvernement socialiste, eh bien ça veut dire qu'on peut traiter également mal les prolétaires blancs qui vivent juste à côté, ou les prolétaires africains qui vivent juste à côté. Donc en fait, je crois que l'idée selon laquelle le peuple serait forcément xénophobe est premièrement fausse, mais deuxièmement finit par avoir une certaine réalité.
Tout comme l'idée inverse que le peuple serait forcément vertueux et généreux.
Bien sûr, parce que le peuple n'est pas donné d'avance. Parce qu'il ne s'agit pas de poser un peuple qui serait bon ou mauvais, mais de se dire que le travail politique, c'est de produire un peuple, c'est-à-dire de faire exister une réalité sociale qui est forcément politique.
Cette réalité sociale, elle n'existe pas a priori, Gaël Broustier ?
Non, mais un peuple, ça se construit. Ça se construit et c'est vrai que c'est là où nos amis espagnols sont intéressants, parce qu'eux, ils utilisent beaucoup cette question de construire un peuple contre la caste. Mais j'insisterai sur un aspect, c'est les outils de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est dans une période où le grand enjeu pour ce qu'on peut appeler la gauche, ça va être quand même de récupérer la démocratie. On a aujourd'hui un système...
Ça veut dire quoi, récupérer la démocratie? Ça veut dire récupérer l'électorat populaire ou
non,
ça veut
tout simplement dire récupérer des outils, de récupérer du pouvoir pour le bulletin de vote, de faire en sorte que quand quelqu'un met un bulletin de vote dans l'urne, ça ait un effet sur l'orientation de la politique menée dans son propre pays, ce qui n'a rien d'évident aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure du système d'intégration européenne. Le réalisme, c'est d'être pour l'Europe. Mais être pour l'Europe a des conséquences tout à fait pratiques. Ça n'est pas l'équivalent d'être internationaliste. Être pour l'Europe aujourd'hui, c'est d'accepter de se soumettre à cet adage du président de la Commission européenne qui dit « il n'y a pas de démocratie hors les traités européens ». C'est-à-dire qu'une fois que tout est figé, vous pouvez voter tant que vous voulez, ça n'a aucun effet. Ce problème-là, il suscite quoi ? Il suscite des phénomènes de défiance dans un certain nombre de pays qui se manifestent soit par la désertion électorale qui est massive dans nombre de pays, par l'affaiblissement des gauches social-démocrates, comme on le voit, qui fondent en termes de voix également. On a vu les dégâts du blairisme au Royaume-Uni, on les a vus en Italie, etc. Et puis qui aussi suscite les percées d'extrême droite. Je parlais de l'Autriche, on peut parler de la France, on peut parler de Wilders, on peut parler de Salvini en Italie, d'un certain nombre d'autres. Donc on a un véritable problème qui est lié au fait que cette promesse d'Europe démocratique, d'Europe sociale n'a pas vu le jour et elle a suscité aussi une dépossession démocratique de ceux qui étaient légitimement élus directement par le bulletin de vote. Alors après, on va objecter qu'il y a la codécision avec le Parlement européen, etc., etc. Mais la vérité est que quand même, l'essentiel, tout le monde se tourne vers le gouvernement, par exemple français, c'est un fait. Mais moi, j'ai toujours envie de dire, mais soyez un peu indulgents avec ce gouvernement. Vous lui demandez de faire baisser le chômage, alors que de toute façon, il allait pieds et mains liés, et que de toute façon, n'ayant strictement aucune marge économique, sauf de désarmer les salariés, si vous voulez, il ne peut rien faire d'autre. À partir du moment où on ne réarme pas le politique, vous n'avez qu'une solution, c'est désarmer les salariés. C'est ça la réalité aujourd'hui du débat en France. Et c'est le cas Macron, d'ailleurs, est assez emblématique de ça, en vérité.
Alors, un outil démocratique, en tout cas, pour peut-être réarmer justement le politique, ça peut être la consultation directe du peuple. Je voudrais vous faire écouter deux extraits extrêmement récents. Un vient de la droite, l'autre vient de Parti Socialiste, donc de la gauche quand même. Ça reste quand même un parti de gauche. À la droite, c'est Nicolas Sarkozy. C'était jeudi dernier à Reims, quand l'ancien chef de l'État, patron des Républicains, en appelle au peuple des adhérents.
C'est vous qui choisirez vos candidats, président de fédération. C'est vous qui choisirez celui ou celle qui conduira le combat de la présidentielle. Et c'est vous et personne d'autre qui arbitrerait les points cruciaux de notre projet politique. Je ne veux pas d'un accord entre trop bons amis sur le dos du peuple français. Vous êtes le peuple français, vous aurez à manifester votre opinion chaque fois que ça sera nécessaire pour trancher les éléments du programme, afin que de nouveau, il ressemble à ce que vous souhaitez.
Voilà, dans un style un petit peu différent. Avant-hier, Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 du Parti Socialiste, qui propose, lui, un référendum au peuple de gauche avant les prochaines régionales.
Face à la droite et l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales ? Face à la droitisation de la droite et la banalisation de l'extrême droite, et d'autre part, la fragmentation de la gauche, il est temps d'en appeler au peuple de gauche pour qu'il se prononce clairement pour l'unité.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Fassin ?
Le fait qu'il y ait une primaire à droite semble être un peu entré dans les mœurs. Alors après, bien sûr, la question des modalités est décisive, c'est-à-dire dans quelle mesure la personne qui dirige le parti contrôle le processus. Pour ce qui concerne le Parti Socialiste, il faut rappeler que M. Cambadélis a d'abord été nommé avant qu'une élection ne vienne ratifier cette nomination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de primaire pour l'élection au Parti Socialiste. Donc, ça n'est pas du tout la même logique.
Mais cette façon d'en appeler à chaque fois au peuple.
Mais simplement, la conception du peuple qui transparaît dans la question, c'est celle du peuple des sondages. En fait, il fait un sondage. C'est-à-dire, il formule une question. Et on se doute à peu près que ceux qui vont répondre seront bien obligés de dire, effectivement, face à la droite et l'extrême droite, peut-être qu'il serait bien de s'unir. Donc on essaie d'induire un certain résultat. Mais le résultat le plus probable, c'est que peu de gens vont voter. Donc M. Cambadélis pourra dire qu'effectivement, ceux qui ont voté sont d'accord avec lui. On peut déjà le prévoir, mais on peut aussi présumer que peu de gens vont trouver que la question est bien posée, parce que la question, elle n'est pas aujourd'hui politiquement seulement tactique. Est-ce qu'il faut faire des alliances au premier tour, au deuxième tour ? C'est un débat idéologique qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire quelle est la politique qui doit être menée. Donc, il transforme une question politique en une question qu'on appelle aujourd'hui communément politicienne.
Mais quand je vous écoute tous les deux, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire que, alors au-delà des sondages, mais même les enquêtes d'opinion et la connaissance de l'état de l'opinion, ça ne doit pas dicter une réponse politique. Eric Fassin.
Reprenons l'exemple de l'immigration où tout le monde a un peu l'impression que forcément les gens quand même sont xénophobes, etc. On vient d'avoir grandeur nature deux expériences, celle de la Grèce et celle de l'Allemagne, qui de ce point de vue sont très intéressantes. Pour ce qui concerne la Grèce, on a vu que l'arrivée au pouvoir d'un parti comme Syriza, qui était clairement marqué économiquement à gauche, s'accompagnait de mesures très ouvertes, très progressistes en matière d'immigration. Donc c'est pas soit l'un, soit l'autre. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'Allemagne, on a vu aussi combien il y avait un rôle du politique dans la transformation des représentations dans la société allemande. C'est-à-dire que avoir une chancelière qui va tenir un discours sur le fait que l'Allemagne est ouverte, eh bien, ça fait une grosse différence avec ce qu'on entend en France ou bien avec Cameron en Grande-Bretagne, à savoir l'idée qu'il faut se protéger et qu'on doit avoir peur. La logique de la peur préconisée par les uns et la logique de l'ouverture préconisée en Allemagne, eh bien, on voit là les effets sur la population.
Sauf qu'il y a peut-être des fois où avoir une bonne connaissance de l'opinion, ça peut aussi éviter de faire certaines erreurs. Gaël Broussier, vous avez travaillé notamment sur ce que vous avez appelé, je crois, le mai 68 conservateur, en tout cas la contre-offensive face au mariage pour tous, qui était cette manif pour tous. Le gouvernement socialiste avait eu une meilleure appréhension de ce qu'était l'état de l'opinion et notamment de la droite catholique et de l'ampleur qu'allait prendre ce mouvement, il n'aurait peut-être pas voulu faire de ce mariage pour tous un marqueur absolu de du quinquennat en cours.
C'est justement parce qu'il a pensé que la société française était un marché, parce qu'il a regardé les sondages et qu'ils ont fait un très mauvais calcul stratégique. Un mauvais calcul stratégique qui, partant d'une réforme juste, qui pouvait être promue efficacement, a tourné à un fiasco en termes de combat culturel, comme on n'en fait pas. Et il était beaucoup... D'abord, c'est pas les sondages qu'il fallait regarder, en vérité. Parce que les sondages ont toujours été favorables au mariage pour tous. La société française a toujours été acquise à l'idée du mariage pour tous. Donc, ils se sont trompés en se disant on va avoir 15 000 vieilles bigotes caricaturales qui vont embêter la droite avec des députés réacs, et la droite se caricaturera elle-même, et on en aura fini avec elle parce qu'on aura fait... on lui aura fait beaucoup de jarnac. Bon, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils n'ont pas analysé, c'est ce qui s'était produit dans les milieux catholiques, en profondeur, cette réorganisation, le fait que beaucoup de cadres, de jeunes cadres s'étaient formés, qu'il y avait toute une génération de jeunes intellectuels catholiques qui étaient arrivés, qui avaient, eux, l'envie d'en découdre et de mener un combat culturel offensif contre les idées de gauche, ou ce qu'ils appellent les idées libertaires, etc.
Bon. Donc ce qui posait problème, c'était pas l'idée du mariage pour tous, mais c'était de pas avoir préparé une contre-offensive, en tout cas une contre-argumentation.
Ils n'ont pas intégré la réforme du mariage pour tous dans un programme émancipateur global. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on n'attaque pas les injustices sur le plan économique, qu'on ne mène pas le front sur un ensemble, sur toute une conception du monde, où on n'intègre pas à la fois l'émancipation économique et l'émancipation en termes de mœurs, en termes sociétales, etc. À partir du moment où on ne fait pas un projet émancipateur global, on s'affaiblit. Et c'est vrai qu'un gouvernement qui tenait un discours de rigueur, un discours empruntant, franchement, sur le plan économique à l'époque, c'était franchement un discours de centre-droit, et ne faisant que de ce projet l'identité de la gauche, sans le resituer dans sa globalité, eh ben, il s'affaiblissait. Il s'affaiblissait d'autant plus que il pensait qu'en face de lui, il n'avait qu'une bande d'inaptes réactionnaires complètement arriérés et qui ne sauraient jamais se faire entendre du pays. Bon, je pense pas que la France soit un pays conservateur, mais il est vrai qu'aujourd'hui, elle compte, au contraire d'il y a 3 ans, un mouvement conservateur organisé, jeune, efficace et qui, hélas, pèse de plus en plus sur le débat public.
Éric Fassin, il fallait mener de concert réforme sociétale et réforme sociale, même si alors on sait que c'est, enfin, j'allais dire un vieux duel, c'est pas si vieux que ça, mais enfin, c'est la polémique entre les fameux auteurs du rapport Terra Nova d'il y a quelques années qui disaient en gros, voilà, il faut s'adresser aux femmes, aux jeunes, aux immigrés. Et puis d'un autre côté, une partie de la gauche qui disait non, ce sont les classes sociales qui doivent primer. Là, je résume évidemment à l'extrême. Mener les deux de concert, c'est possible et c'est souhaitable.
J'aurais un point d'accord et un point de désaccord avec ce que vient de dire Gaël Brustier. Le point d'accord, c'est qu'effectivement, le Parti Socialiste, une fois au gouvernement, a choisi d'être de gauche sur un seul point, le mariage pour tous. Et donc effectivement, pour un électorat de gauche, ça donnait l'impression que, à défaut d'avoir une politique sociale, à défaut de changer de politique en matière d'immigration ou à l'égard des Roms, il restait juste le mariage pour tous. Bon, sur ce point, nous sommes d'accord. En revanche, je ne crois pas que ce soit un problème que la droite se mobilise. Ce qui est un problème, c'est que quand on est un gouvernement de gauche, on s'inquiète du désaccord des gens de droite. Normalement, en démocratie, tout le monde n'est pas d'accord. L'idée qu'il va falloir faire des synthèses entre le point de vue de la droite et le point de vue de la gauche, ça fait pas une gauche. Donc, je crois que l'idée que des catholiques se mobilisent est tout à fait légitime. Mais ça ne doit pas déterminer la politique d'un gouvernement qui n'a pas été élu par les gens qui allaient manifester dans la manif pour tous. Demain, la droite revient au pouvoir, elle ne va pas laisser déterminer sa politique par des manifestations de gauche. Donc, je crois qu'il faut partir de l'idée qu'il est bien qu'il y ait des oppositions entre la droite et la gauche, y compris qu'elles se jouent dans la rue, parce que il n'est pas question que tout le monde soit d'accord. La démocratie s'est fondée non pas sur le consensus, mais sur le dissensus, sur des gens qui s'affrontent. Et en ce moment, c'est ce que fait la droite. La droite affronte les gens de gauche. Il serait bien qu'il y ait une gauche qui propose une autre vision du monde et qui ne refuse pas le débat et le combat.
Gaël Brossier.
Il y a sur la question du mariage pour tous, la question n'était pas de faire une synthèse avec, je crois, le monde catholique, les conservateurs, etc. La question était de ne pas permettre à un mouvement conservateur de se cristalliser et de prendre cette ampleur. C'est-à-dire qu'avant 2012, on n'a pas fondamentalement un encadrement, un maillage, une présence aussi importante de jeunes intellectuels conservateurs présents dans les médias, qui écrivent, qui pensent, etc. Et ce, dans de très nombreux domaines. On n'a pas cette omniprésence de ces thématiques-là et elle doit beaucoup, en fait, à la Manif pour tous. Moi, je me souviens, quand j'avais fait des entretiens, il y avait des jeunes qui m'avaient dit qu'ils étaient issus d'un groupe qui était issu de l'Action française. Les types me disent merci. Merci parce que, franchement, vous nous avez mis en contact avec 1 million de personnes en même temps. Et ça, franchement, merci la gauche. Bon. Et à partir de ce moment-là, il y avait des moyens de désarmer. C'est aussi une question de stratégie. C'est aussi une question de comment on fait en sorte. On va pas susciter leur consentement. Mais c'est comment on fait en sorte de ne pas les regrouper dans un même endroit, qui se coagulent, qui forment leur cadre, qui aient des écoles de formation et qui donnent ce que Monseigneur Rey a réalisé à la Sainte-Baume en août dernier, c'est-à-dire porte grande ouverte à une députée du Front National dans un monde qui normalement lui était particulièrement hostile jusqu'ici, qui était le monde catholique. Et ça, ce sont des effets consécutifs à une mauvaise stratégie, pour moi, une mauvaise stratégie employée par la gauche, qui a laissé traîner ce débat, qui a utilisé les arguments de l'évidence et non pas...
Qui l'a laissé traîner, qui l'a aussi un peu méprisé d'ailleurs.
Qui l'a méprisé, oui, parce que c'était facile, parce que les cathos prêtent à ricanement, parce que, etc., etc. Et que c'était facile, c'était facile au début de tout le monde s'en est remis, en fait, à l'émission du soir, au petit journal et à ses reportages pour montrer à quel point les catholiques étaient ridicules. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous avez un certain nombre de mouvements, de groupes qui se sont coagulés et qui ont acquis une certaine puissance et un certain rayonnement dans la société, qui pose d'ailleurs des problèmes à la droite, parce que quand on voit en 2007, par exemple, vous prenez les jeunes de droite, ce qu'on appelle les jeunes pop, ils sont absolument pas sur la ligne de la Manif pour tous. Maintenant, quand vous regardez bien ce qui s'est passé à droite, dans les partis de droite, très souvent, les jeunes de la Manif pour tous ont éjecté les anciens jeunes pop et ils ont les jeunes pop ont été ringardisés par les ringards. Donc vous avez un phénomène aussi, c'est, si vous voulez, de constitution d'un mouvement authentiquement conservateur en France, qui là, pour le coup, doit beaucoup aux erreurs stratégiques de la gauche.
Donc alors, quelle peut être l'offre politique pour la gauche, pour essayer de regagner un peu de son assise auprès, alors je ne sais pas s'il faut dire du peuple, auprès des milieux de l'électorat populaire. Dans votre livre, Éric Fassin, vous preniez pour exemple, alors non pas Podemos, mais le maire de New York, Bill de Blasio, en disant finalement, ce qu'il est, autant que ce qu'il fait d'ailleurs, peuvent être des exemples qui peuvent changer la façon dont le peuple se positionne.
Alors effectivement, moi je crois que pour faire le lien entre ce qui vient d'être dit sur la Manif pour tous et le cas de New York, la plus grande défaite, c'est quand on n'affirme pas des valeurs idéologiques. C'est-à-dire que le principal problème n'a pas été de prendre de front la droite catholique en France, mais au contraire, ce sont les atermoiements de François Hollande. En revanche, qu'est-ce qui se passe à New York ? C'est qu'on a eu un maire qui a affiché le fait que on pouvait avoir en gros une logique de défense des classes populaires qui était en même temps une logique de défense des minorités raciales et qui était en même temps une logique de défense des minorités sexuelles. À travers les emblèmes familiaux de son épouse, de ses enfants, mais aussi par sa politique. C'est-à-dire qu'il y avait une cohérence entre l'image qu'il projetait et la politique qu'il revendiquait. Autrement dit, il proposait une vision du monde ouverte aux New-Yorkais. Je crois que c'est ce qu'on ne voit pas en France aujourd'hui. La France est un pays où, de plus en plus, les élus du Parti Socialiste ont l'impression que forcément la France est repliée sur elle-même et qu'on est juste dans une logique d'éviter les ennuis. Et ce réalisme, eh bien, à l'usage, on voit qu'il n'est pas réaliste du tout. Il faut, au contraire, proposer une vision du monde. Et s'il n'y a pas une vision alternative, pourquoi les gens iraient-ils voter pour ceux qui sont censés incarner l'alternance? Donc, c'est quoi une alternative? C'est assez simple. C'est d'essayer de réfléchir sur chacun des sujets, en quoi les questions peuvent être posées différemment selon qu'on est de gauche ou de droite. Moi, j'en avais donné des exemples sur le fait que être de droite, c'est considérer que l'immigration est un problème. Être de gauche, c'est considérer qu'il y a des problèmes en matière d'immigration. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que il y a des problèmes dans l'école aussi. Mais on ne veut pas se débarrasser de l'école. En revanche, le chômage est un problème. Donc, est-ce qu'on veut dire que l'immigration, c'est comme le chômage, ou bien que c'est comme l'éducation ? Est-ce qu'on veut dire que c'est un problème ou qu'il y a des problèmes ? Je crois que ces choix de langage, ils aident à penser ce que pourrait être une différence qu'on pourrait essayer de construire systématiquement entre une position de droite et une position de gauche. De même, en matière économique, je crois que beaucoup l'ont dit, si on parle des charges à chaque fois qu'il s'agit en fait de cotisations, eh bien on a perdu la bataille du langage et donc la bataille idéologique et à la fin on perd les élections.
Qui est-ce qui vous semble mener le mieux aujourd'hui cette bataille du langage à gauche, Gaël Brostier? Est-ce que c'est le leader de Podemos? Est-ce que c'est sont les leaders de Syriza? Est-ce que c'est le pape François qui semble être alors à vos yeux la réincarnation, si ce n'est de Gramsci, mais enfin, en tout cas, vous en faites un héros gramscien?
Avec un point d'interrogation.
Avec un point d'interrogation, c'est vrai. Bon, enfin, la réponse est quand même plutôt oui que non.
Non, parce que ce qui se passe au sein du monde catholique a véritablement son importance aujourd'hui face à la globalisation, sur un certain nombre d'enjeux. La question, c'est effectivement comment on crée une volonté politique et comment on suscite le consentement en faveur de cette volonté politique d'une grande majorité de nos concitoyens. Comment on cesse d'opposer les ouvriers et les employés des fameuses zones périurbaines et rurales et les populations des centres-villes. Et comment on crée un projet émancipateur qui associe l'ensemble de la population. C'est-à-dire que comment, en gros, on crée un peuple, comme le dit Laclau, justement, comme le dit Iglesias, et comment on radicalise la démocratie, comment on fait toutes ces attentes sociales un projet global. Aujourd'hui, vous avez une gauche radicale en France qui en appelle au monde ancien. C'est-à-dire que ce soit la gauche radicale classique, le front de gauche, ou que ce soit les frondeurs, ils vous rappellent au socialisme en 1975. Et puis vous avez, au sein du gouvernement, vous avez deux types d'attitudes. Vous avez une attitude qui consiste à dire...
Très vite, pardonnez-moi.
La solution, c'est le libéralisme, c'est Macron. Et puis vous avez quelques traces, quelques contradictions intéressantes. Par exemple, c'est la question du TAFTA. Quand un ministre, comme Matthias Fekl, dit il va peut-être falloir se retirer des négociations et il va falloir récupérer des outils de la puissance publique. Là, vous avez, au sein même de la social-démocratie, des contradictions intéressantes et qui peuvent amener demain à un renouveau de la gauche. Mais tout ça n'est pas joué.
Voilà, demain, c'est justement demain que sort votre livre. À demain, Gramsci, Gaël Brustier, édité aux éditions du CERF. Merci beaucoup, merci Éric Fassin. Gauche, l'avenir d'une désillusion. C'est disponible chez Textuel. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Nafsika Papanikolaou. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean Frédérix. Demain, les syndicats sont-ils prêts à écrire leur histoire ensemble?